Misereor super turbam. J'ai pitié de cette foule, car voici déjà 3 jours qu'ils restent avec moi et ils n'ont pas de quoi manger. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'évangile que nous venons d'entendre, mes bien chers frères, nous rapporte la 2e multiplication des pains, celle que Jésus fit en été dans le territoire dit de la Décapole, pas très loin du lac de Génésareth, et dans le désert relatif qui sépare les 10 villes de cette région. La première multiplication avait eu lieu au printemps du côté de Bethsaïde et avait été suivie du célèbre discours de Jésus sur le pain de vie. On a l'impression qu'elle rentrait davantage dans le plan de notre Seigneur, qui s'en était servi pour préfigurer l'institution de la Sainte Eucharistie. Ici, le miracle semble moins lié à la prédication de Jésus, qui semble même presque hésiter à renouveler le prodige qu'il avait déjà effectué quelques mois plus tôt, et qui convoque ses apôtres comme pour prendre leur avis. « J'ai pitié de cette foule, leur dit-il, car voici déjà 3 jours qu'ils restent avec moi et ils n'ont pas de quoi manger. » Qu'est-ce que notre Seigneur attend donc de ses apôtres en leur faisant cette confidence? Est-ce qu'il attend un conseil, un encouragement? On dirait plutôt qu'il veut provoquer cet acte de foi qu'il demande généralement avant d'effectuer ses miracles. Car c'est une constante dans les évangiles. Avant d'intervenir, avant de guérir les malades, Jésus exige un acte de foi. Par exemple, il demande « Veux-tu être guéri ?» Mais, comme souvent, les apôtres ne sont pas à la hauteur. Les apôtres ne seront à la hauteur du message surnaturel qui leur est donné qu'après la Pentecôte, quand ils auront reçu le Saint-Esprit. Là, ils comprendront tout ce que Jésus leur a enseigné auparavant. Mais avant la Pentecôte, très souvent, notre Seigneur doit se plaindre de leur manque de foi et de leur manque d'intelligence. Et donc, aucun d'entre eux ne s'écrie « Mais Seigneur, vous êtes le pain de vie, vous pouvez les nourrir ». Pourtant, bien que les apôtres n'aient rien dit, mu par la miséricorde, Jésus intervient quand même. Et il en donne la raison. Ça n'est pas la foi des apôtres, puisqu'ils n'ont rien demandé, mais c'est la foi de la foule qui le suit avec confiance. Et surtout, sa persévérance à le suivre. « J'ai pitié de cette foule, dit Jésus, car voici déjà 3 jours qu'il reste avec moi. » Jésus nous indique ici une des conditions essentielles pour bénéficier de ses bienfaits, qui est la persévérance, savoir durer, savoir continuer, savoir répéter ses prières. On le voit parfois dans l'Évangile, résister à des demandes qui lui sont faites. La Cananéenne, par exemple, qui vient demander la guérison de sa fille, se fait presque rabrouer de façon assez dure. « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens », lui dit Jésus. Mais en fait, Jésus ne fait qu'éprouver sa persévérance. Et la brave femme ne se laisse pas décourager. Elle continue à demander et finit par obtenir à la fois la guérison de sa fille et ce beau compliment « Ô femme, ta foi est grande, qu'il soit fait comme tu as demandé. » Notre Seigneur ne s'est pas contenté de nous enseigner cette nécessité de la persévérance en acte, il l'a aussi explicité en parole, et notamment dans ses paraboles. Il y a la parabole de l'ami importun, et notre Seigneur insiste « Demandez !» C'est-à-dire demander avec insistance, continuer à demander et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. On peut noter d'ailleurs que déjà dans l'Ancien Testament, Dieu demandait souvent cette répétition, notamment la répétition des prières, pour intervenir. Par exemple, quand Naaman le Syrien vient demander à être guéri de la lèpre, le prophète lui demande de se baigner 7 fois dans le Jourdain. Pourquoi 7 fois ? Puisqu'il s'agit d'un miracle, une seule fois aurait pu suffire. Mais non, le bon Dieu veut que nous persévérions dans nos demandes. De même, la pauvre Sarah voit mourir successivement ses maris, mais continue à persévérer dans la prière, et elle prie même 3 jours de suite, et c'est à ce moment-là que Dieu lui envoie le mari qu'il avait choisi pour elle, Tobie. Donc, Jésus nous enseigne d'abord cette nécessité de la persévérance pour pouvoir bénéficier des grâces qu'il veut nous donner. Ensuite, ayant nourri les âmes avant les corps, Jésus fait asseoir la foule. Et là encore, il donne un certain enseignement. Il ne veut pas distribuer la nourriture de façon rapide et que chacun mange de son côté. Il veut que tout le monde s'assoie comme pour un repas en famille et ensuite il va intervenir. Il y a peut-être des leçons à en tirer dans notre vie familiale ou notre vie personnelle sur la façon dont nous-mêmes nous mangeons, car il y a une façon chrétienne de manger. Vous savez peut-être que dans certains instituts religieux, il est interdit de manger debout. Il faut s'asseoir pour manger, afin de manifester que l'on fait la chose de façon posée, calme, et c'est-à-dire sous le regard de Dieu, en essayant de se soumettre à sa volonté. Eh bien, dans nos familles, il peut se répandre la coutume barbare, qui nous arrive parfois d'outre-Atlantique, de manger n'importe quand, n'importe comment, tout seul, chacun de son côté. Il faut savoir résister à ces nouvelles façons de faire et apprendre que les repas se prennent dans certaines conditions. Et la condition normale, bon, sauf cas d'urgence, mais la condition normale, c'est de faire ça ensemble, en famille, en s'asseyant, avec un certain rituel religieux, qui est notamment le bénédicité, la bénédiction, dont notre Seigneur va nous donner l'exemple dans un instant, mais aussi un certain rituel, on pourrait dire naturel, et donc certaines règles de bienséance. Notre Seigneur fait s'asseoir la foule par terre, et ensuite, il rend grâce. Le texte ne dit pas s'il a levé les yeux au ciel, mais ailleurs on le voit faire ce geste dans l'Évangile. Et cela signifie non seulement qu'il s'adresse à son Père, mais qu'il veut manifester qu'il remercie le Père, qu'il lui rend grâce, parce qu'il veut montrer que toute nourriture vient de Dieu. Et là encore, c'est une leçon sur la façon dont nous devons manger. Notre Seigneur rend grâce avant de distribuer les pains. Et on verra quelques lignes plus tard. Même chose pour les poissons. Après avoir prononcé une bénédiction, il fait distribuer les poissons. Et dès l'origine du christianisme, les chrétiens avaient pris l'habitude de ne jamais manger sans avoir prononcé une prière, sans avoir fait une bénédiction, demander la bénédiction de Dieu sur la nourriture qu'ils allaient prendre. Et on en trouve des traces déjà dans Tertullien. Tertullien dit que les premiers chrétiens étaient avides de ces bénédictions. Ces bénédictions se trouvent pour toutes les choses saintes. On bénit les vêtements sacrés, on bénit les vases sacrés, on bénit les cloches, il y a l'eau bénite, le sel béni, les huiles saintes. Mais normalement, un chrétien prie avant de manger. Et Saint Grégoire le Grand, au VIe siècle, raconte l'histoire d'une religieuse qui, passant un jour dans un jardin, voit une laitue qui l'attend, et hop, elle se saisit de la laitue et la mange immédiatement, sans autre forme de procès. Or, elle fut immédiatement possédée du démon. Ce fut un saint religieux qui l'exorcisa et qui finit par chasser le démon. Mais avant de partir, le démon se défendit et de façon un peu goguenarde, un peu ironique, comme font souvent les démons, il essaya de se justifier en demandant « Mais qu'ai-je fait? Pourquoi me chassez-vous ? Je me reposais tranquillement sur cette laitue. Cette femme s'est approchée de moi sans faire aucun signe pour me prévenir. Elle n'a pas fait de signe de croix ni quoi que ce soit qui puisse faire partir le démon. Et elle m'a librement englouti. » Et donc le démon ne voulait plus partir. Évidemment, il a été chassé quand même. Mais il y a là un enseignement à garder, qui n'est pas bien sûr qu'il y a un démon caché sur chaque parcelle de nourriture, non, c'est pas ça. Mais qu'il y a une façon d'utiliser les choses qui nous met en danger d'être tenté par le démon et de lui ouvrir la porte. Vous savez, depuis le péché originel, il y a une malédiction qui est tombée sur notre monde et une malédiction qui vient d'abord de l'homme, qui vient du cœur de l'homme, parce qu'il y a un désordre dans l'homme. Et si donc l'homme ne fait pas effort pour se réordonner à Dieu et demander à Dieu la bénédiction sur les choses qu'il utilise, c'est-à-dire reconnaître qu'elles viennent de lui et se destiner à en faire usage comme Dieu le veut, le démon, qui est nommé le prince de ce monde, en profite et il en profite pour nous faire du mal. Donc, deuxième leçon qu'on peut tirer de cet évangile, savoir prier avant et aussi après avoir pris la nourriture et le faire systématiquement. Donc une bonne habitude qui doit se faire en famille, mais aussi en dehors de la famille. Après avoir rendu grâce, notre Seigneur rompt le pain et le donne à ses disciples pour le distribuer. On remarque que notre Seigneur ne mange pas avec les convives, il se met à une tâche qui est un peu ingrate, qui est celle de couper le pain. Ceux d'entre vous qui ont eu à couper du pain pour une collectivité, c'est que quand on en coupe pour une centaine de personnes, par exemple, ça finit déjà par demander un certain effort, a fortiori quand c'est pour plusieurs milliers. Et donc notre Seigneur se présente, comme il l'a dit lui-même, non pas comme celui qui est servi, mais comme celui qui sert. Et cependant, ça n'est pas lui qui distribue la nourriture. Il fait, après avoir coupé le pain, il le fait distribuer par ses apôtres, et il nous montre ici ce qui nous est donné dans les sacrements, puisque notre Seigneur, par sa peine, par sa souffrance, nous a acquis la grâce sur la croix, et on peut dire qu'il la distribue, qu'il la répand, qu'il coupe le pain pour nous, mais ensuite il charge ses ministres de le communiquer aux fidèles à travers les sacrements. Notre Seigneur donc ainsi rompt le pain et le fait distribuer à ses apôtres. Après, il distribue de la même manière les poissons. Tous mangent et tous sont rassasiés. Et l'évangile finit en nous donnant un détail sur les restes, les 7 corbeilles qui sont remplies avec les restes du repas. On peut y trouver un triple enseignement. D'abord, nous voyons ici combien Dieu donne toujours de façon surabondante. Et il en sera de même au ciel. C'est indiqué dans l'Évangile, Dieu nous donnera une mesure remplie et débordante. C'est une des marques de la générosité divine. Deuxièmement, il y a une leçon sur la façon dont nous-mêmes devons traiter la nourriture. Nous devons la traiter avec respect. Et notamment, on ne jette pas la nourriture. Bon, c'est une bonne coutume qui est dans les familles chrétiennes, mais auxquelles il faut veiller, puisque naturellement, si on n'y prend pas garde, les enfants pourraient assez facilement prendre l'habitude de jeter à la poubelle, par exemple, le pain dont ils ne se sont pas servis durant le repas. Donc, il y a des bonnes coutumes chrétiennes à prendre, dont notre Seigneur lui-même montre l'exemple. Et puis enfin, ces corbeilles vont permettre de faire participer encore d'autres personnes aux bienfaits, puisque c'est le propre de la charité. On reçoit la grâce du bon Dieu et ensuite on la reçoit avec une telle abondance qu'on va pouvoir en faire participer les autres. Donc sachons en ce dimanche profiter de cet évangile pour en tirer les leçons qui nous sont données, les leçons pour notre vie de prière dans la persévérance, la leçon sur la façon de manger notamment en famille, mais aussi individuellement. Et puis, nous pouvons, bien sûr, appliquer tout ça à la Sainte Eucharistie, puisque nous allons communier dans quelques instants. Sachons bien qu'il en va de même de cette nourriture eucharistique. Pour pouvoir bien en profiter, il faut être resté avec Jésus. J'ai pitié de cette foule, dit Jésus, parce que voilà 3 jours qu'ils sont avec moi. Et bien de même, Jésus aura pitié de nous et nous donnera largement ses grâces dans la Sainte Eucharistie si nous avons fait auparavant un effort pour être avec lui, rester du temps avec lui. Et là, oui, nous recevons les grâces. Il faut évidemment recevoir la Sainte Eucharistie dans ses dispositions d'action de grâce, de bénédiction, de louange de Dieu, dont Jésus a donné l'exemple en distribuant les pains. Nous, si nous le faisons, nous serons rassasiés, nous recevrons toute la force, la grâce dont nous avons besoin. Non seulement nous serons rassasiés, mais nous pourrons distribuer aux autres le surplus de cette grâce divine et en faire profiter notre prochain. Demandons cette grâce par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.